Radio Kapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Au moins 33 personnes ont été tuées par des rebelles des ADF au cours d'une série d'attaques hier mercredi. Parmi les civils tués, 22 l'ont été dans des villages du groupement de Batangimbao et d'autres dans les secteurs de Bafer et territoire de Lubero. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024 a commencé hier. Ces résultats concernent pour la première phase 30 provinces éducationnelles et la liste des meilleurs lauréats des 5 provinces éducationnelles a également été rendue publique hier même. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias et notre invité, Patrick Mouyaya, revient sur le séminaire gouvernemental organisé à l'intention des membres de l'exécutif national et qui s'est clôturé le mardi au Palais de la Nation ici à Kinshasa. Bonjour à tous. Au moins 33 personnes ont encore été tuées par des rebelles des ADF dans les territoires de Beni et de Lubero au cours d'une série d'attaques hier mercredi. Parmi ces civils tués, 22 l'ont été dans des villages du groupement de Batangimbao, rapporte la société civile du territoire de Beni. D'autres attaques sont intervenues dans les secteurs de Bapéré, territoire de Lubero, depuis le début de la semaine, indique le chef de secteur Sadiq Aboubakar pour les détails.
Le président de la société civile du territoire de Beni rapporte que 22 civils ont été exécutés par des ADF dans plusieurs villages de Batangimbao à la limite avec le territoire de Mambasa en Ituri. Omar Kalicia affirme qu'une quinzaine de corps sont déjà à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oïtia, chef-lieu du territoire de Beni.
Et aujourd'hui, nous venons d'enregistrer 22 morts, mais la fouille n'est pas encore finie. Mabouo, c'est la partie qui a été plus attaquée. Il y a la partie qu'on appelle Beou. Il y a la partie qu'on appelle Makwakwa.
Dans le territoire de Lubero, 11 personnes ont également été tuées dans différentes attaques depuis lundi dans le secteur de Bapéré. C'est notamment dans les villages de Ombolé, Makopissé, Ngombe et Kengele. D'après Makier Sivikunula, chef de cette entité extra-coutumière, ces bilans est encore provisoire car les corps des victimes sont découverts progressivement. Il affirme cependant que des troupes des FRDC et UPDF sont déjà sur les traces de l'ennemi. Du côté du territoire de Beni, l'armée n'a pas encore réagi au sujet de ces attaques. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
À Ituri aussi, il y a eu des morts cette semaine. 8 corps sans vie ont été découverts hier mercredi à Ouessa, localité proche du centre commercial d'Otmaber sur l'axe Komandaluna, dans la chefferie de Wale Sevonkoutou au sud du territoire d'Irumu, ce qui porte à 15 le nombre des civils tués, dont certains décapités en l'espace d'une semaine. Selon certains activistes des droits humains qui citent des rescapés, les victimes ont été prises en otage dimanche dernier par les ADF dans leur champ. Ils demandent aux forces conjointes FRDC armées ougandaises de traquer ces rebelles ougandais jusque dans leur retranchement. Et bien évidemment, toutes ces tueries entraînent les déplacements dans tous les sens des habitants de l'Ituri. Ils sont à ce jour, près de 20 000 déplacés dans la cité de Mungwalu et sa périphérie. La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri s'inquiète de leur situation humanitaire de plus en plus préoccupante. Dans une déclaration à la presse ce jeudi, la coordination de la société civile Force Vive indique que ces personnes installées dans des familles d'accueil et les places publiques sont dépourvues de tout. Dieudonné Lossa lance un appel au gouvernement congolais et aux humanitaires pour une intervention urgente dans la zone où on enregistre déjà une dizaine de morts parmi ces sinistrés. Il demande également au gouvernement de réhabiliter le tronçon routier Iga-Barrière-Mungwalu pour faciliter l'acheminement de l'aide aux déplacés. Dieudonné Lossa est au micro de Martial Kizabiamungu.
Par rapport aux conditions infrahumaines dans lesquelles se trouvent les déplacés qui ont fui les hostilités des groupes armés Codeco, miliciers autodéfense Zaïre. Depuis qu'ils ont fui, ils se sont installés à Mungwalu, ils n'ont pas à manger. Ils sont en train de couper dans la misère. La population de la commune rurale de Mungwalu se trouve dans cette situation où elles ne savent pas quoi donner et aider cette population déplacée. Nous invitons l'État congolais et toutes les organisations humanitaires à faire diligence pour intervenir en faveur de cette population. Nous passons également, les travaux routiers qui se font entre Mungwalu et Iga-Barrière doivent aller rapidement et faciliter l'aide humanitaire en faveur de cette population qui souffre atrocement à ce moment.
Les déplacés du Nord Kivu ne vivent pas non plus dans des meilleures conditions, notamment ceux des différents sites plus au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo. Vivant à l'extérieur des agglomérations, ces familles manquent d'alternatives pour assurer ne fût-ce qu'un repas journalier pour leurs enfants. Les femmes et les hommes rencontrés mardi par notre collègue dans les sites de Bujari et Nyakabanda, dans le groupement Kibati, ont affirmé vivre un calvaire pour survivre dans ces sites, en plus des mauvaises conditions hygiéniques et d'hébergement. Suivez ce reportage de Sifamago.
Manque de nourriture, accès difficile à l'eau potable ainsi qu'à d'autres services de base, la plupart de ces familles dorment presque à même le sol dans les petits abris usés par des intempéries, obligées de se rendre dans les champs aux abords du parc des Virunga pour se procurer du bois de chauffe ou de quoi manger. Ces femmes sont victimes de violences sexuelles de la part des hommes armés. L'une d'elles témoigne de la multiplicité des cas, même chez les enfants de 6, 8 ans et plus. Les femmes ont maintenant trop peur d'aller en brousse à cause des violences. Lorsqu'un homme en armes te trouve sur la route, automatiquement, il va faire tout ce qu'il veut sur toi. En outre, l'accès à l'eau potable est un casse-tête dans cette zone qui n'a pas d'adduction d'eau. À cela s'ajoute la psychose de l'insécurité causée par des tirs nocturnes récurrents dans la zone, explique ce jeune homme qui est membre du comité du site de Bujari.
Dans ce site, il y a un problème d'eau potable. La nourriture est insuffisante. La jeunesse de ce camp n'a pas d'occupation. S'il ne trouve pas de travail, il devient soldat.
Ces populations sont impatientes de rentrer dans leur terroir afin de s'occuper de leurs enfants qui sont sacrifiés dans les sites faute de la scolarité ou tout autre encadrement, disent-ils. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, la ville de Kalemie est en proie à une insécurité croissante ces derniers jours. Des malfrats munis d'armes à feu et d'armes blanches visitent régulièrement des maisons d'habitation dès la tombée de la nuit. D'après le mouvement citoyen Parlement debout sans tabou, en l'espace de 11 jours, une dizaine de cas de cambriolage sont enregistrés à Kalemie. Exaspérés, les habitants veulent se faire justice. Un jeune homme présumé voleur a été brûlé vif par la population en début de semaine au quartier Joseph dans la commune de Lukuga. Depuis Kalemie, Paulin Munanga.
Le dernier cas en date s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi au quartier Kituku sur l'avenue Makutano. Des malfrats ont visité quelques maisons, rapportent des témoins. Dans l'une des maisons, ils ont emporté des biens de valeur et ont blessé à la machette les propriétaires au niveau de la tête. Des sources indiquent que c'est presque chaque nuit que des cas de cambriolage sont signalés. Cette semaine, il y a plusieurs cas de vol qui sont déplorés et 5 blessés, dont certains à la machette, rapporte le président du mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou. Signalons un cas de justice populaire en début de la semaine au quartier Joseph dans la commune de Lukuga où un présumé voleur a été brûlé vif par la population. Face à ces regains du banditisme urbain, le président du mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou demande aux autorités de la ville de Kalemie de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Début hier mercredi de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024. Ces résultats concernent pour la première phase 30 provinces éducationnelles. La première série des publications des résultats des épreuves de l'examen d'État concerne 5 provinces éducationnelles et la liste des meilleurs lauréats des 5 provinces éducationnelles a également été rendue publique hier même. D'autres détails dans ce compte rendu de Plamedi Mbiavanga et Blaise Makassé.
Si l'on doit se référer au communiqué de l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jacques Oudia, les résultats des 30 provinces éducationnelles traitées sont disponibles et seront publiés au fur et à mesure. Les premiers résultats concernent uniquement les 5 provinces éducationnelles suivantes, Kinshasa Mwamba, Kinshasa Plateau, Congo Central 1, Équateur 1 et Kwilu 1. Et les taux de réussite dans ces provinces est de 60%. Dans ce même communiqué de presse, l'inspecteur général a aussi révélé les résultats des lauréats de ces 5 provinces éducationnelles concernées par cette première série des publications ainsi que leurs écoles respectives. La session ordinaire de l'examen d'État pour l'édition 2023-2024, faut-il le rappeler, a compté plus de 962 000 candidats inscrits dans 2800 centres sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans quelques écoles consulaires des pays limitrophes.
Les agences de l'ONU sont disposées à accompagner le gouvernement provincial de Kinshasa à relever les défis auxquels est confrontée la ville et à améliorer ainsi la vie des Kinois. C'est ce qui ressort de l'entretien hier à Kinshasa entre le gouverneur Daniel Bumba et Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur des affaires humanitaires. D'après nos sources à l'hôtel de ville de Kinshasa, cette rencontre entre dans le cadre des consultations que mène l'autorité provinciale en vue de trouver des solutions efficaces aux difficultés qui rongent le quotidien des Kinois. Bruno Lemarquis revient sur l'essentiel de leur entretien dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Massimango.
On a discuté de la manière dont le système des Nations Unies avec toutes ses agences pourrait collaborer sur certains dossiers, la question de la sécurité urbaine, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du logement, la question des services sociaux de base, la gestion des risques et des désastres, puisque la ville de Kinshasa est très exposée aux aléas climatiques et on l'a bien vu avec les grosses inondations qu'il y a eu. Les quartiers entiers ont été inondés, donc il faut que la ville se prépare mieux. On a discuté de la digitalisation, par exemple de l'état civil, les questions environnementales, la question de la pollution, la question de l'utilisation du Makala à Kinshasa et du besoin d'avoir des sources alternatives d'énergie, puisque cette utilisation très forte du Makala à Kinshasa a un impact sur la déforestation de toute la zone qui entoure Kinshasa. La question agricole, comment alimenter Kinshasa en produits agricoles, donc c'est le développement agricole, la ceinture verte autour de Kinshasa. Les discussions vont continuer entre la province, les agences des Nations Unies et puis également d'autres partenaires qui pourraient être intéressés à appuyer la province.
La RDC va organiser le forum AGOA 2025 en juillet prochain à Kinshasa. Cette décision a été prise hier mercredi à l'issue de la réunion des ministres du commerce africain des pays éligibles à l'AGOA, réunion tenue à Washington. Par ailleurs, les ministres du commerce extérieur africain ont plaidé pour le renouvellement rapide de l'AGOA pour une durée de 16 ans, avec la simplification des règles d'origine des produits africains et aussi l'accroissement du volume des exportations vers les États-Unis d'Amérique. Ils encouragent le gouvernement américain à investir en Afrique dans le développement des chaînes de valeur. On écoute les explications de Julien Paloukou qui considère la désignation de Kinshasa comme une victoire diplomatique du président de la République. Il est dans cet extrait proposé par Alain Hong.
Je suis heureux, pourquoi? Parce qu'effectivement, je suis venu avec la candidature de la RDC aux côtés d'autres pays. Il s'agit du Nigeria, il s'agit du Rwanda, il s'agit de l'île Maurice, il s'agit du Bénin. Il s'agit d'autres pays qui voulaient avoir ou abriter ces assises-là. Et chacun a présenté un argumentaire pour convaincre les ministres du commerce de l'Afrique qui sont éligibles à l'AGOA pour devoir abriter le prochain forum de 2025. Et donc l'argumentaire de la RDC a été construit autour de 5 grandes raisons qui ont été passées au peigne fin à l'issue desquelles l'ensemble des ministres du commerce de l'Afrique ont appuyé la candidature de la RDC pour abriter les prochains forums à Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est la capitale de l'Afrique centrale, Kinshasa, c'est le cœur de l'Afrique, Kinshasa, c'est le centre d'attractivité mondiale, Kinshasa offre les meilleures conditions d'accueil, Kinshasa offre toutes les facilités à tous les pays africains qui s'y rendront désormais.
Ici au pays, la société civile de Kasumbalesa, province du Haut-Katanga, vulgarise le plan local de développement. Le coût global de ces plans quinquennales est estimé à plus de 9 millions de dollars. Il renferme plusieurs projets d'intérêt communautaire. Pour le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans la ville de Kasumbalesa, tout le monde devrait s'impliquer pour sa réalisation. Peter Mwepulunda est joint par Jean Gatou.
C'est dans cette optique qu'un plan d'investissement annuel, exercice 2024, qui était élaboré pour rendre opérationnel les quinquennats dans une première tranche annuelle avec ses budgets précités. Le plan d'investissement annuel compte 150 activités. Nous avons un grand objectif global, c'est contribuer à l'amélioration d'ici fin 2024 du niveau de vie des communautés de Kasumbalesa par le renforcement de l'économie leur accès aux services sociaux de base de qualité par la stabilisation de l'économie locale et la réduction de sa dépendance de l'extérieur, par l'amélioration de la gouvernance locale, le renforcement de la paix sociale et la consolidation de l'autorité de l'État, et à travers la modernisation de l'aménagement de la ville, ainsi que par la consolidation de la gestion et la protection de l'environnement. Tout cela conformément aux 5 piliers du plan national stratégique de développement transformé en axe stratégique qui était ressorti d'une manière précise.
Au Kasaï central, le collectif dénommé Diidia Kasaï appelle le gouverneur de province à dépolitiser la régie financière provinciale de Gercac et à placer des technocrates à sa tête. Ce collectif l'a fait savoir dans un message écrit adressé à l'autorité provinciale dans lequel il s'oppose également à la corruption et au détournement des deniers publics. D'après son coordonnateur, les Kasaïens disent non aux mauvais gestionnaires et ont besoin des personnes sans couleur politique et capables de mobiliser des recettes pour qu'elles servent au développement de la province. Les propos de Porcien Missenga sont recueillis par François Kadima.
Ça fait un bon temps que cette régie financière est devenue une machine instrumentalisée par les systèmes politiques. Et chaque régime qui passe cherche à placer ces gens pour avoir le contrôle des recettes. Et cela n'a fait pas avancer notre province parce que la canalisation des fonds perçus ne va pas directement dans la caisse de l'État ou la caisse de la province pour permettre à l'exécutif de bien exécuter son action gouvernementale, mais plutôt entre dans des poches de privés, comme nous avons connu dans beaucoup de cas avec le régime passé. Voilà pourquoi nous avons demandé à l'actuel gouverneur de ne plus tomber dans les erreurs du passé comme ses prédécesseurs et de mettre des personnes qu'il faut, des personnes compétentes à la tête de la DGRCAC sans tenir compte des couleurs politiques. Et cela doit se faire par la compétition, travailler avec les experts en province ou au niveau national, pour réformer cette régie, numériser les données, renforcer les systèmes de recettes.
Actualité internationale.
Jeux olympiques Paris 2024. 12 chefs d'État africains sont attendus à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi 26 juillet à partir de 17h30 temps universel. Un rendez-vous auquel 110 chefs d'État et de gouvernement sont attendus.
L'invité.
Le séminaire gouvernemental organisé à l'intention des membres de l'exécutif national s'est clôturé le mardi au Palais de la Nation. 13 recommandations ont été formulées et des lettres de mission ont été remises à chacun de ses membres du gouvernement. Pour le président de la République, les enseignements tirés de ces travaux écoulés sous forme de pacte d'engagement citoyen doivent être appliqués au quotidien dans l'objectif d'obtenir des résultats. Pour en parler, nous recevons le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Messieurs les ministres, bonjour.
Bonjour, monsieur Shindani.
Vous avez participé aux travaux du séminaire gouvernemental. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces rendez-vous, surtout pour la population?
Écoutez, c'était un rendez-vous important après la sortie du gouvernement de la première ministre Judith Suminois. Parce que lorsque vous faites un séminaire de ces types-là, vous savez qu'il y a beaucoup, presque 60% du gouvernement a été renouvelé. Vous venez vous rappeler à suivre plutôt des notions sur, par exemple, la collaboration ou le fonctionnement du gouvernement. Vous êtes briefé sur un certain nombre de sujets, notamment sur comment fonctionne la diplomatie de manière générale, la sécurité, la situation générale du pays, mais aussi toutes les questions économiques, ANAPI, programme d'investissement, etc. Donc ici, ce que la population peut attendre, c'est de voir que ces ministres ont été pleinement outillés. Ces ministres, au terme de ces séminaires, se sont engagés à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour être sûr que chaque jour, dans les cas de leurs responsabilités, ils seront en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir aux résultats. Donc, ces séminaires étaient un séminaire qui était plutôt, je dirais pas de mise à niveau, mais c'était un séminaire d'outillage pour permettre aux membres du gouvernement de mieux comprendre le maillage dans lequel ils doivent fonctionner, de mieux maîtriser certains sujets qu'ils auraient pu entendre en étant un simple citoyen avant de venir au gouvernement, d'en avoir la maîtrise et de travailler de manière efficace au côté côté du président de la République et de la première ministre dans leurs secteurs respectifs pour apporter des résultats.
Le mot du président de la République à l'ouverture et à la clôture de ces séminaires ont été interpellateurs. Il a appelé les membres du gouvernement sous-minois à faire preuve d'une gouvernance efficace. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour répondre à cette attente?
Écoutez, les mécanismes ne se mettent pas en place autour du séminaire. Au séminaire, on vous rappelle les béabas et on trace les lignes directrices. Les mécanismes, nous sommes nous-mêmes membres du gouvernement, il y aura des lettres d'émission qui vont suivre. Nous préparerons un autre niveau de feuille de route pour nous assurer que, en fonction de ces actions qui nous sont destinées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, nous donnons de notre meilleur pour apporter des résultats. Et ici, il faut compter sur la détermination renouvelée de chaque membre du gouvernement, de donner justement de son meilleur pour être sûr que nous quittons d'un point A pour aller vers un point B positif dans les cas de notre action en faveur du peuple congolais.
Chacun sera jugé à l'aune de sa compétence, de ses qualités professionnelles, mais aussi de sa bonne moralité. C'est cela la ligne directrice du gouvernement de la différence, a rappelé la première ministre. Comment se fera cette évaluation quand on sait que le président de la République avait, dans les temps, promis une évaluation du travail des gouverneurs, mais que cela n'avait jamais été fait?
Écoutez, je voudrais pas aller sur ce terrain-là, mais il faut considérer ici que nous avons une double pression. Le président de la République, dans ses premiers mots aux membres du gouvernement, avait justement parlé d'évaluation régulière. Vous savez que nous sommes dans un pays où tout est urgent et où on a besoin d'avoir des réponses rapides, et donc il y aura sûrement trimestriellement dans les schémas convenus entre le président de la République et la première ministre des évaluations régulières du membre du gouvernement. Ici, M. Shindan, il ne faut pas oublier que nous avons une Assemblée nationale et qu'il y aura aussi un aspect de contrôle parlementaire. Parallèlement à cela, vous savez, nous sommes un gouvernement, la première ministre a dit un gouvernement de différence et de changement. Nous allons nous assurer qu'en termes de redevabilité, qui est l'un de maîtres mots, que nous consolidons aussi les acquis de ce point de vue. Et donc, les ministres, membres du gouvernement, vont faire face à plusieurs types de pressions pour nous assurer que, de manière régulière, le travail qui est fait est compris, pour que les Congolais comprennent aussi qu'en réalité, il n'y aura pas de baguette magique. En 3 mois, on ne peut pas s'attendre non plus, par exemple, à avoir des miracles, mais dans 3 mois, ça peut être suffisant pour pouvoir apprécier le premier pas qui sont faits par chaque membre du gouvernement en termes de maîtrise des questions de ce secteur, mais aussi en termes de grandes actions à poser pour s'assurer que dans un secteur A, nous avons donné les résultats tels que voulus par le peuple congolais.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi et mis en onde par Billy Landry Betou. Je vous laisse en compagnie de Jean Gando pour le journal de sport.